qu'est-ce que c'est qu'un métier, qu'est-ce que c'est qu'un art, hein? C'est toujours des questions. C'est le monde rempli de questions, vous savez, auxquelles il est difficile de répondre, même si on se les pose à soi-même.
Je crois qu'un homme se termine vers 16-17 ans. Mais vers 16-17 ans, un homme a eu tous ses rêves. Il ne les connaît pas. Mais ils sont passés. Ils sont passés en lui. Il sait s'il a envie de brillance ou de sécurité ou d'aventure. Il sait. Et il passe sa vie à vouloir réaliser ses rêves-là. Et je crois qu'à 17 ans, l'homme est mort.
Moi, je ne sais pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Je fais aucune différence entre écrire un livre, travailler pour un film, me promener, dire des choses. Et beaucoup de choses agréables pour un tas de gens, des inconnus que je connais quelque part, je ne sais pas où. Donc j'aime beaucoup, surtout les femmes et les enfants.
Vous êtes sur Studio Zef, l'émission commence et c'est la moindre des choses. Parmi les sons étouffés des bruits de café, la voix de la femme dessine son destin. Emné est libanaise. Emné est française. Emné voyage, part, vient, repart, revient. Quand la vie est faite d'aller-retour, comment décide-t-on de revenir ? Emné est revenue au Liban il y a quelques mois, après avoir arpenté le monde de 1000 calligraphies étranges. Elle a enseigné à des enfants syriens en refuge, au sud, à la frontière libanaise. Elle lit les livres, comme elle dessine. Elle avance, comme elle observe. Vous écoutez Studio Zef, et c'est la moindre des choses.
J'ai 25 ans.
J'écris, plein de tristesse, dans ma chambre paisible, seule comme je l'ai toujours été, seule comme je le serai toujours.
Parce que mes parents sont partis étudier en France. Ça fait une trentaine d'années qu'ils sont là-bas. Puis... Donc je suis née en France, j'ai fait la maternelle, la primaire, en Seine-et-Marne. Puis à 10 ans, ma mère a trouvé un travail au Liban. Elle a commencé à enseigner à la fac, donc elle a décidé de nous prendre, genre, ses enfants, de partir au Liban. Puis mon père est resté en France pour son travail. On est resté jusqu'en 2006. On était censé rester jusqu'en 2008, mais il y a eu la guerre en 2006, la guerre de juillet 2006. Puis on a été rapatriés par des bateaux français jusqu'à Chypre. Puis de Chypre, on est parti en France. Puis ensuite, elle a beaucoup discuté, ma mère, avec mon père, pour savoir si on allait retourner ou pas. Parce que bon, la guerre a fini le mois d'août. Puis dès le mois de septembre, il y avait les rentrées scolaires, mais ma mère a décidé que non, c'était trop dangereux. Puis on avait vraiment beaucoup souffert ces deux semaines qu'on avait passées pendant la guerre au Liban. En plus, on était au sud du Liban. Donc c'était vraiment très ciblé par... tout ce qui était attentats et bombes et bombardements, etc. Donc je suis retournée en France à 16 ans. J'ai fait la première et la terminale en France. Puis je m'étais inscrite à la fac à la Sorbonne. Et puis sur un coup de tête, je suis rentrée au Liban, je sais pas. Je me suis dit non, je vais rentrer au Liban. Puis j'ai fait ma licence au sud Liban. Puis j'ai fait mon master ici à Beyrouth. Et à 23 ans, j'ai fini mon master. Je suis repartie 2 ans en France, vivre avec mes parents. Puis j'ai fait entre-temps, enfin, la dernière année en France, je suis partie 6 mois au Canada, puis 1 mois au Chili, Pérou, Bolivie. Puis là, je suis de retour au Liban. Puis là, j'essaye de repartir au Canada, d'arranger mes papiers pour la fac, pour retourner au Canada. Parce que... parce que ça devient un peu pesant de vivre au Liban. C'est cool d'y être 4-5 mois, puis un peu plus, on commence à vraiment sentir les problèmes du Liban. Puis des fois, c'est des problèmes politiques, mais ça influe vraiment sur ton humeur et puis sur ton quotidien. Donc voilà, puis j'ai décidé que c'est bon, j'allais partir. Toujours revenir pendant les vacances, mais peut-être y vivre plus tard quand je serai grande, mais là j'ai vraiment beaucoup vécu au Liban et puis j'ai vécu toutes les tensions politiques, puis là j'ai besoin de m'éloigner de ça. Allez. En gros, c'est un peu mon parcours jusqu'à présent.
Végéta, l'Académie des silences. Ton nom bruissant comme des coquelicots. Les bassins du parc, mon retour. Ces souvenirs appartiennent à mes rêves. Sans même fermer les yeux, je ne vois plus rien.
J'ai fait au moins 9 établissements scolaires. Oui. Ça m'a fatiguée au bout d'un moment. Ça m'a fatiguée, mais d'un autre côté, ça... Enfin, je recherche encore cette instabilité. J'aime bien ne pas être longtemps dans un même pays. C'est pour ça que là, être revenue au Liban, je suis revenue le mois d'avril, puis je me dis, ok, ça fait quand même quelques mois que je suis là, puis j'avais un but, en fait, quand je suis rentrée, c'était d'aider les réfugiés syriens. Parce que je faisais pas grand-chose quand j'étais en France, puis on est vraiment en pleine crise au Liban avec tous les réfugiés syriens qu'on a ici. Puis je me suis dit, j'aimerais bien être utile d'une manière ou d'une autre. J'ai travaillé avec une ONG, sauf que le projet a été arrêté subitement. Ouais, ma mère est rentrée il y a un mois. Bah, en fait, même ma famille a aussi ce côté instable. Ma mère est rentrée il y a un mois au Liban. Puis là, je suis avec ma mère et ma sœur aussi. Ça fait un mois qu'elle est au Liban. Mais mes deux frères et mon père, ils sont en France. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Des fois, c'était les garçons au Liban et les filles en France. Mais du coup, c'est cool parce que j'ai eu les deux cultures. J'ai eu la culture libanaise, puis la culture française. Puis quand je suis en France, tout le monde m'appelle la libanaise. Puis quand je suis au Liban, ça va être la française. Je suis toujours une étrangère dans le pays dans lequel je vais. Puis moi, au fond, je me sens les deux, enfin, libanaise et française. Peut-être un peu plus libanaise parce que c'est un pays qui a besoin de nationalisme au Liban. Parce qu'on a beaucoup été en guerre, puis... On a souvent été envahis. Puis la France, elle n'a pas besoin de ce côté patriotique, j'ai l'impression. C'est un pays qui est beaucoup plus ouvert à l'étranger que le Liban. Quand j'étais en France, il y avait mon père qui avait une association musulmane. Et je ne me retrouvais pas vraiment dans les objectifs de l'association de mon père. Mais il y avait deux aspects dans son association. C'était inculquer les jeunes musulmans au bon côté de l'islam, pour pas qu'ils tombent dans le salafisme, parce que c'est vraiment présent en France. Puis d'un autre côté, il y avait des aides scolaires. L'après-midi, ceux qui avaient du mal à l'école venaient faire les devoirs. Puis j'ai aidé quelques fois mon père dans cette association. C'était pas payé, c'était bénévole, mais ça me faisait plaisir. Je leur apprenais à faire des commentaires composés, puis des dissertations. Puis tout ce qui était matière française, philosophie, j'aidais les gosses dedans. Mais c'était pas des enfants en difficulté comme ici. Là, l'ONG, elle ciblait vraiment des enfants qui ont vécu la guerre et puis qui ont été déplacés d'urgence, puis qui maintenant vivent dans des endroits vraiment précaires. Puis j'ai eu la chance de visiter deux fois les camps de ces enfants. Puis c'est des tentes qui sont installées près des égouts. C'est très insalubre. Puis ça a été très touchant de travailler avec eux. J'ai travaillé 2 mois et demi avec eux. Et puis j'ai observé beaucoup de traumas psychologiques. Enfin même, par exemple, des fois, je leur donnais 1 heure de dessin par jour. Et puis les dessins étaient assez violents. Je te les montrerai après, si tu veux. J'en ai 3, par exemple, sur mon téléphone. Puis on sent que c'est dur, qu'il y a de la violence dans les dessins, alors qu'ils ont que 5-6 ans. Puis c'est pas des fleurs et puis des trucs comme ça qu'ils vont dessiner. C'est des hommes tout bizarres, tout cabossés, tout... je me suis dit, bon, 5-6 mois, ça va être cool avec ses enfants, même si je rentrais à la maison des fois, et puis c'était fatigant psychologiquement de travailler avec ces enfants-là. Parce que moi, enfin, c'est-à-dire les deux premiers jours avec l'ONG, il y avait l'UNICEF qui était venu nous surveiller en fait pendant 2 jours. Ils étaient venus voir comment les enseignants travaillaient avec les enfants. Puis ils n'avaient pas encore réparti les enfants dans des classes précises. C'était un peu brouillon les 2 premiers jours. Puis ils observaient beaucoup plus les enseignants que les enfants. Puis ils ont vu que j'étais très patiente avec les enfants. Donc on m'a donné une classe d'enfants avec des cas assez difficiles. Par exemple, j'avais un enfant schizophrène dans la classe qui voyait encore son frère qui a été tué pendant la guerre en Syrie. Puis il y avait une place dans la classe, c'était son frère qui était assis ici. Puis il parlait avec lui tout le temps. Et... bon, en fin de compte, genre, même pour lui faire plaisir, des fois, je commençais à dire, bon, cette feuille-là, ça va être pour Hadi, ton frère. Puis j'avais des enfants qui étaient battus par leurs parents. Il y en avait qui avaient... J'avais 6 enfants dans ma classe qui n'avaient pas de père. Enfin, c'était des pères qui étaient morts pendant la guerre.
Trois jours d'un semblant de début d'amour.
Ça me faisait vachement plaisir de travailler avec ces enfants, mais je me souviens rentrer à la maison plusieurs fois. Je vivais chez ma grand-mère ces 3 mois, puis je rentrais en pleurant des fois parce que ça me fatiguait vraiment. J'avais l'impression de porter tout ça en moi et puis d'être inutile. À pouvoir les aider en dehors de l'école. Parce que quand ils venaient à l'école, ce qui est drôle aussi, c'est qu'on voyait ces enfants et puis ils ne savaient pas ce que c'était l'affection. Enfin, quand, par exemple, on faisait un jeu et puis qu'on devait se tenir les mains, tout le monde avait du mal à se tenir les mains. Puis ils avaient du mal à faire des câlins. Puis, ou bien juste à dire des petits mots doux. Puis pendant ces 2 mois, j'ai essayé de leur dire que c'est pas tabou, que c'est pas dangereux. Puis, c'est cool de s'aimer, ça fait du bien. Puis ils étaient vraiment contents. Mais le problème, c'est qu'il y en avait qui retournaient à leur camp et puis le lendemain, ils revenaient avec des traces de... Enfin, on voyait qu'ils avaient été battus à la maison. Puis j'avais l'impression que je travaillais un peu dans le vide des fois. Que tout ce que je leur apprenais à l'école, ils ne pouvaient pas vraiment appliquer ça à la maison. Enfin, je crois que j'avais un idéal qui n'était pas vraiment réalisable. Puis je m'imaginais pas à quel point c'était vraiment dur pour eux de... Parce que finalement, c'était vraiment une autre ambiance à l'école. Ils étaient suivis par des psychologues, puis ils arrêtaient pas de jouer, de dessiner, puis ils avaient à manger. Puis des fois, je les revoyais cacher de la nourriture dans leur sac pour les donner à leurs frères qui étaient encore dans les camps. Puis moi, je fermais les yeux et je leur disais « Ok ». Alors que normalement, on est censé compter chaque sachet de biscuits, combien on en a distribué par jour. Je mentais souvent sur ça, mais c'est pas grave. Mais pour moi, ça a été quand même une réussite à la fin. Même si je sais que... Bon, maintenant... Par exemple, j'ai trouvé... Il y avait un gosse qui s'appelait Ali dans ma classe. Il travaillait dans les champs. Quand il finissait l'école, il allait travailler dans les champs et puis il revenait le lendemain crevé à l'école. Puis des fois, il s'endormait sur la table et puis je le laissais s'endormir. Je me disais, c'est pas grave. Puis une fois, il y avait une fille qui s'appelle Marwa. Je l'ai trouvée à côté d'un mall à Saïda, en train de mendier. Puis j'étais en train de conduire et j'ai arrêté la voiture. Et puis je suis descendue. Je lui ai dit, Marwa, genre, je t'enseigne à l'école, c'est pas pour que tu viennes mendier dans la rue. Puis il m'a dit, oui, mais c'est mon père qui m'oblige, donc je peux pas. J'ai beau lui dire, oui, je suis enfant, je peux pas travailler, mais. Les parents sont pas. Enfin, le plus gros problème, ça a été les parents des élèves. Ça a été dur de travailler avec eux. Il y en avait quelques-uns qui venaient pour se plaindre, justement. Alors oui, à ce qui paraît, vous leur faites des leçons de morale, comme quoi... Je leur disais, non, on ne leur fait pas des leçons de morale. Moi, je leur donne des leçons de vie en général. Je ne vais pas leur demander ce qui se passe à la maison. Mais je leur dis qu'en général, les enfants ne doivent pas travailler. Ils ne doivent pas être frappés. Puis ça gênait vraiment les parents. Il y en avait quelques-uns qui venaient. Puis ils se disaient, comment oses-tu ? Mais le problème, c'est que nous, en tant que profs, on n'a pas le droit d'avoir accès à la vie privée des enfants. C'est-à-dire que moi, j'avais juste le droit d'observer. Si je voyais une enfant qui a été... Par exemple, j'avais une enfant qui était venue avec des traces de brûlures sur sa poitrine. Puis je l'ai juste demandé c'était quoi. Puis il m'a dit mon père m'a brûlé au charbon. J'ai pas le droit de demander pourquoi. Enfin même la question c'est quoi, j'avais pas le droit de le faire en fait. Puis j'avais envoyé un email à la psychologue en lui disant bon j'ai observé que telle fille avait des brûlures. Puis son père l'a brûlé au charbon. Puis il m'a dit ok mais c'est pas à toi de demander qui l'a brûlé. T'as juste à me dire une fille a des traces sur sa poitrine. Du coup c'était un peu difficile de communiquer aussi. Parce que nous en tant qu'enseignants on est limités. Puis c'est vraiment genre à cet âge-là où t'es le plus vulnérable à la guerre. Mais c'est vrai que les profs quand même m'ont parfois conseillé avec certains cas, par exemple avec l'enfant schizophrène, que je devais faire ou pas. Ouais. Puis moi j'ai pas fait de cours de psychologie, j'ai fait lettres. Puis je me souviens quand une fois j'étais rentrée chez moi, puis il y avait ma grand-mère qui me voyait pleurer, puis elle m'a dit arrête ce travail, c'est pas fait pour toi, genre. C'est en train de te tuer. Puis je lui ai dit tant pis. Puis j'ai commencé moi-même à lire des livres de psychologie, mais c'est vrai que j'étais pas formée. J'étais peut-être formée pour enseigner, mais pas ce profil. Enfin, je passe des fois à côté du camp, mais j'ai pas le droit d'entrer. Enfin, je pourrais entrer, mais...
De chaque voyage, même très court, je reviens comme d'un sommeil entrecoupé de rêves. Une torpeur confuse. Toutes mes sensations collées les unes aux autres, sous de ce que j'ai vu.
Ok, il y a celui-là par exemple. Et ce qui est fou, c'est qu'on a des crayons de couleur, mais ils se dirigent souvent vers le noir. Puis, ils aiment bien le rouge aussi. Et ils se disputaient tout le temps pour avoir le crayon de couleur rouge. Mais tout ce qui était autre couleur, ils n'aimaient pas. Ils aimaient vraiment dessiner avec le crayon en papier. Puis ils repassaient des fois, plusieurs fois sur les traits. Et des fois, il y avait la feuille qui se déchirait. Puis je leur disais doucement. Puis ça, je me souviens que c'est Fatima qui avait dessiné ça. Des fois, quand je leur demande, ils me regardent d'une manière... Mais c'est évident. Pourquoi tu me demandes? Je sais pas.
Par exemple, est-ce que tu penses que ce qu'elle a autour de la tête...
Je pense que c'est un voile. Je pense que c'est sa mère, en fait, qu'elle a dû dessiner. Je sais pas. Puis ça, c'est Hussam qui avait dessiné ça.
C'est un bonhomme avec des très grandes jambes. Ouais. Pareil, très noir.
Et Hussam, bah justement, Hussam, il n'a pas de bras droit. Il a un bras gauche normal, mais son bras droit, il a reçu un bout de verre. Il y avait un obus qui avait éclaté dans l'immeuble d'à côté, puis il a reçu un bout de verre. Mais Hussam a l'habitude de dessiner des gens avec de longs pieds, puis il aime bien renforcer les pieds et les jambes, et il oublie souvent les bras au bout. Bah, je leur avais dit de faire un autoportrait. Mais Fatima, vu qu'il y a des talons, je sais pas vraiment si c'est elle ou pas. Après, c'est vraiment une fille coquette. Et ça, c'est Ali. C'est le fou de la classe.
Et là, il y a des choses qui sortent de sa tête, comme des bulles, comme des...
Ou bien une couronne, peut-être, je sais pas. C'était vraiment le leader de la classe. Il avait une grande gueule. Il était génial, c'était... Et très souvent, je ne sais pas ce qui se passe avec ces enfants-là. Je sais par exemple que celle qui a été brûlée avec le charbon a été enlevée de sa famille, puis qu'elle a été mise dans un centre. Mais pour le reste, non, parce que je n'ai pas le droit non plus de demander. Bah, ceux de ma classe, vu qu'ils ont 4, 5, 6 ans, la plupart n'ont pas fui la guerre dès le début. C'est pour ça qu'ils ont vraiment été... Voilà. Je pense que ça doit faire depuis 2013 qu'ils sont là, mais au même endroit, rasillés, c'est au sud du vent. Puis ouais, c'est vraiment triste de voir. C'est vraiment des conditions de vie très difficiles dans lesquelles ils vivent. Ça fait 2 ans qu'ils sont dans le même camp. Mais après, ça devient une famille parce que j'avais des amis dans la classe qui s'échangeaient les habits, puis ils n'étaient même pas cousins, mais... Vu qu'il y a les toilettes communes et puis le camp doit se partager l'eau, puis les denrées alimentaires, donc ils finissent par vivre comme une famille.
خالي لا يعتب حدا ولا يزعل حدا أنا لحبيبي وحبيبي إلي أنا لحبيبي وحبيبي إلي يا عصفورة بيضة لا بقى تسألي لا يعتب حدا ولا يزعل حدا أنا لحبيبي وحبيبي إلي حبيبي ندهلي قال لي الشتي راح رجعت اليمامي زهر التفاح حبيبي ندهلي قال لي الشتي راح رجعت اليمامي زهر التفاح وأنا على بابك ندي والصباح وبعيونك ربيع عينو
Vous écoutez Studio Zef Et c'est la moindre des choses.
Bah, le problème au Liban, c'est que c'est qu'on est environ 1,5 million de environ 1,5 million de réfugiés syriens. Puis avant les réfugiés syriens, on a eu les Syriens, les réfugiés palestiniens. Puis les réfugiés palestiniens ont été très mal intégrés dans la société libanaise. Puis nous, on pensait que bon, ça allait être une question. Enfin, il y avait la guerre en Palestine, puis on se disait que dans 2-3 ans, ils allaient repartir. Puis ils ne sont jamais repartis. Ils ont fini par s'installer. Puis maintenant, les Libanais ferment les yeux sur les Palestiniens. Le nouveau problème, c'est les Syriens. Et ils refusent de les intégrer à la société. Ils ont vraiment du mal. Ils ne veulent pas que les enfants syriens soient scolarisés, parce que pour eux, ça veut dire qu'il y aura une forme de stabilité. Quand un enfant se scolarise, c'est que c'est bon, il va être là toute la nuit. Et puis justement, l'UNICEF a arrêté notre projet à nous pour que les enfants syriens aillent s'inscrire dans des écoles libanaises publiques. Sauf que les écoles libanaises refusent les enfants syriens. Parce que pour eux, c'est vrai qu'ils n'ont pas le même niveau, vu qu'ils n'ont pas été à l'école, alors que les autres ont été à l'école. Puis des enfants de syriens de 15 ans vont se retrouver avec des enfants de 7 ans libanais. Puis vraiment, les Libanais ont un problème avec les réfugiés syriens. Puis ils mettent tout sur le dos. Des Syriens. Les Syriens, maintenant, au Liban, c'est un peu comme les Juifs dans les années 20 et 30 en Europe. Puis moi, je trouve ça débile parce que je sais très bien que les Syriens ne vont pas repartir en Syrie. Puis là, la Syrie, même s'ils repartent en Syrie, il faudra au moins 10 années ou 20 années pour reconstruire tout le pays. Puis là, si on n'éduque pas ces enfants, ça va faire une fille club amie et moi. Enfin, même dans ma famille, il y en a beaucoup qui sont contre mon travail. Ils me disaient, non, il ne faut pas aider les Syriens à rester au Liban. Enfin, là, tu es en train de les aider à s'installer ici. Puis je leur disais, on ne va pas se mentir, on sait très bien qu'ils vont rester ici. Puis autant les éduquer dès maintenant, parce que si on ne les éduque pas, ça va être une génération d'illettrés, puis d'analphabètes, puis très souvent, ça va mener à la délinquance. Et puis, autant les aider dès maintenant, ils ne vont pas faire la même erreur qu'on a fait avec les Palestiniens. Sauf que les Libanais, on en a marre, parce qu'on a déjà beaucoup de problèmes. Économique au Liban, on a beaucoup de chômage et puis on a des salaires très bas. Puis les Libanais ont l'impression que les Syriens sont en train de voler leur travail, alors que c'est pas vrai parce que les Syriens font des travaux que les Libanais accepteraient pas de faire. C'est vraiment de la main d'œuvre pas chère et puis la construction, bien la poubelle, enfin. puis je trouve ça, pour moi, un réfugié doit être éduqué. Enfin, c'est la première chose qu'on doit faire avec un réfugié, c'est l'éduquer. Puis au moins lui expliquer c'est quoi le fait d'être réfugié, parce que mes enfants, enfin, les enfants, à chaque fois je dis ça, je dis mes enfants, les enfants savaient même pas pourquoi ils étaient au Liban. Je blâme. Puis je me souviens, une fois, je leur avais dit, mais vous savez pourquoi vous êtes au Liban? Puis ils m'ont dit non. Enfin, on n'est pas Libanais, je leur ai dit non, vous êtes Syriens. Puis ils m'ont dit, ah, mais c'est pour ça qu'une fois, ma grand-mère et ma mère, genre, ils nous ont mis dans la voiture la nuit, puis on a pris plein de sacs, et puis on est venus au Liban. Je leur dis oui, parce que maintenant, Syrie ne va pas être là-bas. Il y a la guerre. Et puis vous êtes mis au Liban, et puis nous, on est contents que vous soyez là. Mais c'est vraiment pas l'opinion de beaucoup de Libanais. Puis moi, ça me touche parce que mon père, quand il a quitté... Enfin, mes deux parents sont partis en France parce que c'était devenu difficile de vivre au Liban. Quand ils sont partis en France, la France les a beaucoup aidés. Puis ils ont été naturalisés, puis mes deux parents ont fait leur thèse de doctorat, puis ils n'ont rien payé, ils ont eu leur chambre universitaire gratuitement, ils ont eu des bourses. Et je me dis, mais c'est fou quand même. L'accueil que peut avoir deux pays différents. Enfin, la France aussi a les moyens peut-être d'accueillir quelques étrangers. Puis mon père a été beaucoup exposé à la guerre aussi. Puis moi aussi en 2006, quand j'ai vu la guerre, je me suis dit... Et puis quand on était parti à Chypre et qu'on a vu l'accueil des Chypriotes, je me suis dit waouh.
As-tu déjà songé, ô ma différente, combien nous sommes invisibles les uns pour les autres? As-tu déjà pensé à quel point nous demeurons ignorants des autres? Nous nous voyons sans nous voir, nous nous entendons, et chacun de nous n'écoute que la voix qui se trouve au fond de lui.
Puis ils ne comprennent pas ce que c'est la guerre. Puis même moi, avant 2006, je ne savais pas ce que c'était. J'avais beau vivre avec des Palestiniens, enfin, il y avait des Palestiniens et des Syriens, mais je ne savais pas vraiment ce que c'était la guerre. Jusqu'au jour où j'ai entendu un obus, puis là je me suis dit, ok, j'ai compris. Et tant qu'on n'a pas vraiment vécu au moins un jour dans la guerre, on ne peut pas s'imaginer à quel point c'est intense. Puis on est resté 2 semaines à vivre sur les nerfs, et c'était vraiment... Enfin, jusqu'à maintenant, je crois que ça a été l'événement de ma vie qui m'a le plus marqué. Genre, ils ont appris à dessiner dans ma classe. Ça, pour moi, c'était vraiment une réussite. Puis ils ont écouté de la musique pour la première fois. Ils ont vu un ordinateur portable pour la première fois. Puis je me souviens, la première fois que j'avais mis mon ordi sur la table et qu'il y avait de la musique qui sortait, ils se sont mis sous la table pour chercher d'où sortait le son. Puis j'avais mis une vidéo sur Instagram de la vie des gosses qui mettent leurs oreilles sur la table pour savoir d'où vient le son. Tout le temps. Ils devaient dessiner tous les jours, tous les jours, tous les jours. Puis, à la fin, ils ne voulaient même plus compter, faire des maths, de l'anglais. Non, on va faire dessin.
Tu leur as donné un moyen d'expression universel.
Voilà. Parce qu'en plus, à cet âge-là, genre, ils ne peuvent pas encore écrire. C'est trop tôt, à 4 ans, de tenir le crayon puis d'écrire l'alphabet ou bien leur prénom. Puis ils aimaient vraiment ça, dessiner. Puis ils adoraient ensuite les accrocher sur la classe. Puis j'avais un mur rempli de dessins. Puis une fois, la propriétaire du local est venue et puis elle m'a dit, genre... C'est bien mignon, mais t'es en train d'abîmer le mur avec ton scotch.
Nuage. J'ai conscience du ciel aujourd'hui, car il y a des jours où je ne le regarde pas, mais je le sens plutôt, car je vis à la ville et non dans la nature qui la contient. Nuage. Ils sont aujourd'hui la réalité principale et me préoccupent comme si le ciel se voilant était l'un des grands dangers qui menacent mon destin.
Bah, le Liban, en fait, le problème avec les Libanais, c'est que le Liban est vraiment petit. Puis le Liban et la Palestine, en gros, ont un peu les mêmes ennemis. Puis du coup, les Libanais disent c'est bon, enfin, on a déjà nos problèmes à nous, on va pas partir sauver toute l'humanité. C'est vrai que c'est vraiment petit et que des fois on a l'impression de vivre l'un sur l'autre. Et puis des fois les Libanais n'ont pas les moyens d'aider. Puis moi, j'avais pas les moyens d'aider non plus, mais l'éducation, ça demande pas beaucoup de moyens, je pense. Moi, j'aurais pas les moyens de leur donner, enfin, de louer un appart à une famille syrienne. Puis là, voilà, le seul truc que je pouvais faire, c'était l'éducation. Puis ça, c'était vraiment un truc qui a pas été donné aux Palestiniens. C'est pour ça que maintenant, ils sont marginalisés, les Palestiniens ne vivent pas avec les Libanais. Il y a pas beaucoup de mariages entre Palestiniens et Libanais. Puis les Palestiniens, ça va faire une quarantaine d'années qu'ils vivent dans les camps, et puis c'est bon. Ils sont pas sortis des camps encore. Alors que les Syriens... Enfin, les Syriens aussi, ils vivent dans des camps, mais maintenant ils commencent un peu à... Enfin, eux, je pense qu'eux ont observé les Palestiniens et puis se sont dit, on va pas s'enfermer sur nous-mêmes. Après, il y a les deux mentalités. Il y en a qui n'aiment pas se mélanger, et puis il y en a qui essayent de cacher leur nationalité syrienne, et puis je sais pas. C'est un peu compliqué au Liban.
J'envie, sans bien savoir si je les envie vraiment, ces gens dont on peut écrire la biographie, ou qui peuvent l'écrire eux-mêmes. Dans ces impressions décousues, sans lien entre elles. Et je n'en souhaite pas non plus.
Parce que je viens d'une famille musulmane. Puis au Liban, ils ont la coutume, c'est de se marier vers les 25 ans, 23 même. À partir de 23, c'est l'âge de se marier. Puis à chaque fois que je vais visiter ma famille, c'est bon, aimé, c'est quand qu'on va se marier. Puis des fois, ils m'arrangent des coups et puis j'y vais jamais.
Tu les vois venir à chaque fois?
Ah ouais. Non, des fois, ils me disent, ouais, en fait, vendredi, il y a quelqu'un qui vient dîner. Puis je comprends direct. Et je fuis le vendredi. Puis je sais, enfin, j'ai beaucoup voyagé en fait l'année passée, puis... Puis là, je vais en banlieue sud de Beyrouth. C'est pas le Beyrouth qu'on voit maintenant. Il n'y a pas ce genre de café. C'est les femmes voilées, vraiment. Puis le Hezbollah. J'ai pas de problème contre ça, mais de rentrer, par exemple, j'ai déjà eu quelques remarques en rentrant le soir vers 2h, 3h du matin. Puis je me suis dit, bon, c'est pas vraiment le Liban dans lequel j'ai envie de vivre. Puis ici, on a beaucoup de complexes au Liban. Les Libanais sont super complexés. En plus, on a le problème des poubelles. Puis il y a plein de maladies qui vont arriver avec la pluie et ce genre de poubelles. Puis il n'y a pas de salaire ici, puis il n'y a pas de travail.
La vie nuit à l'expression de la vie. Si je vivais un grand amour, jamais je ne pourrais le raconter.
Mais c'est peut-être aussi parce qu'on a été sous mandat français, puis il y a toujours... Enfin maintenant, je sais pas si t'as remarqué, mais il y a plein d'enfants qui savent pas parler arabe, mais qui parlent français. Ça, c'est un choix des parents. Parce qu'ils savent que quand ils vont avoir 18 ans, ils vont envoyer les gosses à l'étranger. Ils veulent pas, enfin ces parents-là veulent pas que leurs enfants restent au Liban. Et puis, pour eux, rester au Liban, c'est régresser. Puis peut-être qu'il y a cette ouverture au Liban, parce que le Liban, c'est la troisième plus grande diaspora au monde, les Libanais. Ils sont vraiment partout dans le monde, en Amérique du Sud, en France, au Canada, il y en a beaucoup, en Afrique aussi. Puis ils reviennent souvent au Liban, et puis ils apportent un peu de culture avec eux, des pays. Bah par exemple, dans les années 1910, il y avait eu la famine au Liban, puis il y a beaucoup de Libanais qui sont partis en Amérique du Sud. Mon arrière-grand-père aussi est parti au Venezuela. Puis tous ceux qui sont partis en Bolivie sont revenus, enfin, il y en a quelques-uns qui sont revenus et qui ont apporté le maté avec eux. Puis très souvent, il y a des Libanais qui ne savent même pas que le maté n'est même pas libanais. C'est devenu un truc traditionnel au Liban, mais à la base, c'est les réfugiés libanais qui sont partis en Bolivie et qui ont rapporté ça avec eux. Je pense que l'Amérique du Sud, je vais recontinuer l'Amérique du Sud parce que ça m'a beaucoup rappelé le Liban. Bizarrement, j'aime bien voyager dans des pays qui me rappellent le Liban. Beaucoup, par exemple, en France, j'ai pas ce truc-là. Puis quand je suis partie en Allemagne ou en Belgique, bon, c'est super européen. Quand je suis partie au Chili et au Pérou, il y avait J'étais avec ma cousine qui est libanaise mais qui vit au Canada, puis on me disait c'est fou comme ça me rappelle le Liban, et je disais oui, et puis on n'arrêtait pas de repartir dans ces coins-là parce que... Ouais, mais je me vois pas vivre éternellement au Liban, même dans un seul pays, n'importe quel pays. J'ai vraiment envie de voyager.
الليل والسماء والنجوم وقمره قمره صغره وانت وانا يا حبيبي انا يا حياتي انا كلنا كلنا في الحب سوا
Vous écoutez Studio Zef et c'est la moindre des choses.
Au Liban, ça, c'est, enfin, le féminisme au Liban, c'est pas le féminisme en France. Par exemple, au Liban, on n'a pas le problème de salaire. La femme et l'homme ont le même salaire au Liban. Alors qu'en France, c'est fou, c'est un pays occidental qui est beaucoup plus avancé que nous économiquement, puis on a toujours la femme qui gagne moins. Au Liban, non. Puis au Liban, parce que les gens sont encore très attachés à la religion. Puis malgré ce qu'on pense sur l'islam et puis sur le christianisme et tout ça, la femme a quand même une grande place dans l'islam et dans le Coran. Puis les gens vraiment religieux vont respecter la femme. Puis moi, en tant que femme au Liban, enfin pour être ce que je suis devenue maintenant, j'ai quand même dû un peu me rebeller contre ma famille. Parce que bon, dans ma famille, c'est souvent des femmes voilées, qui voyagent pas beaucoup, pour ne pas dire pas du tout. Puis elles se sont toutes mariées à 22 ans, 21 ans. Ma grand-mère s'est mariée à 13 ans. Elle a eu 13 enfants. Puis la femme de mon oncle, par exemple, s'est mariée à 14 ans. Puis la femme de mon autre oncle s'est mariée à 15 ans. Ça choque un peu pour un Français. Au Liban, bon, on a l'habitude. Ça se fait plus beaucoup maintenant. On attend la vingtaine quand même. Puis au Liban, le problème, c'est que le mariage, c'est quand même vu comme la consécration de la vie d'une femme. Du moins chez les musulmans. Donc dans ma famille, c'est comme ça. Puis je leur ai bien montré que moi, mon travail, ça va passer avant. Puis mon engagement va passer avant. Parce que, je sais pas, j'ai pas besoin d'un homme pour être épanouie dans la vie. Peut-être que ce sera cool si quelqu'un va m'aider. Ou bien si je vais trouver un homme qui va avoir les mêmes points communs que moi. Mais là, maintenant, je me suis fiée à moi-même. Puis c'est peut-être, ça a l'air un peu narcissique, mais les enfin maintenant les jeunes femmes au Liban, elles sont souvent comme ça, elles essayent vraiment de se prouver, puis on commence à avoir vraiment des postes bien placés au Liban. Toujours pas, enfin on n'a pas beaucoup, on n'a même pas, on avait une députée femme il y a quelques années, une ministre femme, des députés il y en a quelques-unes. Politiquement bon, ça, on n'est toujours pas là, mais puis ma mère me dit, écoute pas les gens. Puis il y a des jours où ma mère me dit « Rine, il ne faut pas trop non plus. » Enfin, ma mère est un peu bipolaire sur ce côté-là. Des fois, elle n'aime pas plus. Enfin, des fois, ça l'énerve que les gens parlent sur moi. Puis des fois, elle me dit « Bon, il faut un peu se plier à la société. Genre, essaye de ne pas trop rentrer tard, etc. » Mais j'ai pas vraiment l'impression qu'être femme au Liban, c'est difficile. Pour moi, être femme en France, c'est beaucoup plus difficile, bizarrement. Je sais pas. Je sais pas si t'as senti aussi que la femme est assez libérée au Liban. Elle est vraiment libérée. Mais je pense que c'est aussi le contexte dans lequel on vit. Enfin, nous, le Liban, on a vraiment été un pays meurtri. Puis j'ai l'impression que les femmes se forcent à avoir un peu un côté dur et pour surmonter tout ce que le Liban a vécu. Puis, je sais pas trop. Pour moi, la femme est vraiment libérée au Liban. Moi, la famille de ma mère était assez laïque. C'est-à-dire que ma mère a voulu voyager. Enfin, ma mère était comédienne à la base. Puis à 18 ans, elle a été dans une troupe, puis elle a fait la Tunisie, elle a fait le Maroc, elle est partie au festival d'Avignon. Elle a fait vraiment plein de festivals. Puis mon grand-père n'avait pas de problème, alors qu'à l'époque, ça choquait un peu. Même dans le village de ma grand-mère. Puis il disait à mon grand-père, comment tu laisses ta fille partir en voyage comme ça avec... Puis mon grand-père disait, mais c'est de l'art, mais laissez-la faire ce qu'elle veut. Beaucoup de ma mère. J'ai beaucoup, beaucoup pris le côté un peu rebelle de ma mère.
Jours d'un semblant de début d'amour.
Chez les musulmans, chez les chrétiens, il n'y a pas vraiment cette pression sociale. C'est là où on sent vraiment la différence entre la culture musulmane puis la culture chrétienne. Ah oui, c'est une forme de résistance. C'est pour ça aussi que j'ai un peu arrêté de partir au sud tout le temps, voir ma famille, parce que je sais que je vais avoir tout le temps des problèmes avec ça. Puis c'est devenu un sujet de conversation au dîner de famille. On va parler d'Aimée maintenant et de ses prétendants. Enfin, bref. C'est devenu assez lourd. Nous, de tomber amoureux en tant que femme, nous, les jeunes femmes, oui, on peut tomber amoureuse très facilement. Puis, mais le problème, c'est que ce sera toujours la famille. Par exemple, moi, en tant que musulmane, si je vais annoncer à ma famille que j'aime un chrétien, ça va faire scandale. Même maintenant, alors qu'on est en 2015, ça va vraiment faire scandale. Puis si c'est un homme qui n'a pas fait de longues études, ça va aussi faire scandale. Puis du coup, la pression sociale est encore plus forte sur le mariage et puis sur le fait qu'il doit être d'un niveau social assez bourgeois. Tout ce que je déteste. Mais bon, par rébellion, je me tourne vers tout ce que ma famille n'aime pas. Vers les chrétiens qui sont soit artistes, soit je sais pas quoi. Soit peintres, soit guitaristes. Mais c'est vrai que j'ai eu une période comme ça à 19 ans où j'avais rencontré un homme et je me suis dit, bon, je vais tenter ma chance juste pour faire plaisir à ma famille. Puis après, je me suis réveillée, je me suis dit, bon, tu vas te marier avec lui, c'est pas ta famille qui va se marier. Mais le mariage, ouais, c'est encore un problème au Liban. C'est vraiment un énorme problème au Liban. Moi, par exemple, j'ai des amis qui sont mariés à 22 ans par pression sociale. Puis là, par exemple, j'ai eu une très bonne nouvelle qu'une de mes amies a quitté son fiancé. J'étais vraiment contente parce qu'elle l'aimait pas. C'était juste un médecin qui était super riche. Puis bon, elle s'est dit, je vais pas me marier avec sa fortune, son compte bancaire. Puis elle a laissé tomber, finalement. Puis après, maintenant, par exemple, mon ami va avoir du mal à se remarier, enfin à avoir un nouveau fiancé parce que la société libanaise n'aime pas les femmes divorcées, puis elles n'aiment pas les femmes qui étaient fiancées puis qui ont quitté leur fiancé. Parce qu'ils vont se dire que la femme a un problème. Elles sont souvent marginalisées, les femmes divorcées. Mais ça, enfin, moi, j'avais un peu cette mentalité-là avant. Même quand je faisais ma licence, j'étais encore un peu dans ma bulle, puis j'écoutais beaucoup la pression sociale, mais je vivais au sud du Liban. Et puis d'être venue à Beyrouth, ça m'a beaucoup ouvert. Parce que c'est vraiment un autre monde. Beyrouth et le sud du Liban, c'est deux cultures vraiment différentes, c'est deux ambiances différentes, deux environnements vraiment opposés. Puis c'est là où j'ai commencé à voir, genre, beaucoup plus de gens cultivés et éduqués qui me disaient « Bon, écoutez, mais ça sert à rien de se marier. T'as toute la vie devant toi. » Souvent, ouais, ça m'a aidé. Ça m'a aidé de venir à Beyrouth. Bah, je pense que quand j'aurai l'impression de plus être, de plus avoir la force de faire des activités sociales ou bien politiques, bien, quand j'aurai perdu cet engagement, peut-être que par détresse ou bien par dépit, je vais me marier, mais j'espère que ça ne va pas arriver d'ici. Mais au Liban, les hommes n'aiment pas trop ce genre de femmes. Enfin, ils les aiment bien de loin, mais après, que ce soit de la femme au quotidien, ils auront l'impression que ça empiète un peu leur virilité. Bah, au Liban aussi, il y a beaucoup ce jugement dans le regard des gens qui commence assez tôt malheureusement, 23, 24 ans, puis on se pose des questions, pourquoi t'es pas fiancée, pourquoi t'es pas mariée. Puis très souvent, les femmes qui se marient tôt ici ont souvent un enfant la même année parce qu'elles peuvent pas supporter le mariage qu'elles ont fait par pression sociale. Du coup, elles ont besoin de combler cette déception, puis elles vont avoir un gosse directement. Puis elles se retrouvent à 19 ans avec des enfants, deux ou trois enfants. Au lieu de voyager, enfin 18 ans, 19 ans, qui sont censés faire le tour du monde, je sais pas. Rencontrer du monde, qui sont censés faire le tour du monde.
Deux. Trois jours d'un semblant de début d'amour. Entendu Emné dans un café à Beyrouth et Fernando Pessoa lu dans son livre de l'intranquillité. Un grand merci à chacun. Vous écoutez Studio Z et c'était La moindre des choses.